je vous envoie avec aujourd'hui cette partie, la paix soit avec vous. Alors, juste pour rappel, vous savez que en 2020, on était sur ce rappel retrouver le premier amour, qui est si important. Et en 2021, l'accent est mis sur faites ceci en mémoire de moi, pratiquez les œuvres comme je vous l'ai enseigné, nous dit Jésus. C'est dans cet esprit-là. Et quand on lit, chaque fois qu'on prend la scène, c'est souvent un texte qui revient, Luc 22, 19, avec « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». Faites quoi en mémoire de moi ? C'est se rappeler que son corps, il l'a donné librement pour nous. Et que, comme c'est le modèle, il nous invite aussi. Il nous invite à ne pas regarder à notre corps, à nos besoins, mais de regarder à lui, d'être capable de donner aussi, comme lui a fait. Alors, on va développer ça. Donc, je propose, on va lire une nouvelle fois Jean 20, versets 19 à 22. Merci. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » La paix soit avec vous, recevez le Saint-Esprit. Mais d'où vient la paix, cette paix si importante, mais pas n'importe quelle paix. La paix soit avec vous. Alors, ça peut être pris comme une invitation, une affirmation. Alors, vu le contexte de l'apparition surprenante de Jésus, on peut comprendre qu'il est démarré par ça en disant « La paix soit avec vous ». Imaginez, ils avaient fermé la porte à clé et puis ils voient Jésus d'un seul coup qui est là. Alors, ils étaient surpris, ils ont dû se dire à un moment donné « Mais est-ce qu'on a la berlue ? C'est bien lui, c'est pas lui ?» Alors, pour les rassurer, il commence, parce que Dieu est bon, Jésus est bon. Alors, il commence simplement par dire « La paix soit avec vous. Hey, soyez tranquille. Je suis là, avec vous. » Mais quand il redit « La paix soit avec vous », c'est juste avant de préciser « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alors, je vous invite à considérer que Jésus, il nous envoie, mais il ne nous envoie pas n'importe comment. Il nous envoie avec sa paix. Et il ajoute, en soufflant sur eux, donc sur nous aussi aujourd'hui, « Recevez le Saint-Esprit ». Il nous fait donc deux cadeaux. La paix et le Saint-Esprit. Et ça, c'est un équipement à saisir. Pour comprendre un peu mieux ce qui peut se cacher derrière ce mot « paix », je vous propose de réfléchir sur ce mot en regardant les antonymes, les contraires, afin que Jésus, par ce biais, j'ai envie qu'il nous donne un peu le mode d'emploi pour que la paix soit avec nous. C'est toujours intéressant d'avoir un mode d'emploi. Bon, il y en a qui ne les regardent pas. Quand ils reçoivent un meuble Ikea, par exemple, ils ne regardent pas le mode d'emploi, ils commencent à tout sortir, puis ils disent « j'y vais !» Puis à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils avaient mis une planche à l'envers et puis que ça ne va pas du tout, que c'est boiteux, que ça ne marche pas. Un mode d'emploi, ça peut être pratique. Et dans la Bible, il y a plein de modes d'emploi. Il y a plein de choses utiles. Bon, je vous dis ça, mais vous le savez, hein. Sinon, vous n'auriez pas la Bible avec vous, hein. Alors, on y va et on va découper en plusieurs parties cette paix. Alors, j'ai commencé par ce qui me semblait le plus évident, la paix entre les nations par opposition à la guerre, au carnage, au combat, on peut dire aussi aux bagarres, aux batailles, aux assauts. Enfin, il y a plein de mots qui concernent vraiment la paix entre les nations. Alors, les conflits, généralement, ils ont pour origine la conquête de territoire. Il y en a toujours qui en veulent un peu plus. Mais aussi pour des raisons d'idéaux et de religion. Alors il en résulte des mouvements de population qui peuvent inquiéter. Et ça en tout temps, hein, et encore aujourd'hui malheureusement. Alors on en arrive sur plusieurs points. La peur de l'étranger. L'étranger qui arrive avec sa différence culturelle. Il est vrai que ça peut déranger nos habitudes, nos certitudes. Il y en a qui ont tellement peur, d'ailleurs, ils construisent des murs. La peur des différences qui contrarient notre confort. Et c'est vrai, ça me rappelle une petite anecdote. C'est ma tante, de la famille qui est originaire de Pologne, et ma tante me disait, mais tu sais, quand les Polonais, quand on est arrivé en France, les gens étaient contents de nous voir travailler dans les mines, dans les champs, partout où il y avait besoin de bras, entre les deux guerres. Mais par contre, pas question d'habiter dans le village avec les gens. On allait, c'était dans les forêts qu'on vivait, dans des cabanes. Elle-même, quand elle a commencé à travailler avec ma grand-mère, qui était polonaise, j'ai pas écrit tout ça, je vous raconte ça, je vous raconte un peu ma vie, mais dans les meilleurs jours, ils vivaient dans la grange, dans le foin, dans la paille, et quand on leur permettait d'avoir un abri. C'est comme ça qu'on accueillait les étrangers. Et c'est pas vieux. Bref, je laisse mes souvenirs de famille de côté. Pour dire qu'il est rare, il me semble, que l'on voit l'étranger comme une source d'enrichissement culturel. Pourtant, notre pays des droits de l'homme, il me semble qu'il est bien écrit sur le fronton des mairies « liberté, égalité, fraternité ». Mais plus encore pour nous qui sommes citoyens de la patrie céleste, c'est la parole qui nous guide dans ce domaine. Et que dit la parole ? En Matthieu 25, verset 35, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Oh, ça se passe même de commentaires. En Actes 10, au verset 28, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. » Bon, vous reconnaissez, c'est Pierre qui cause. « Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Allez, je poursuis en Deutéronome 10 au verset 19. « Vous aimerez l'étranger, c'est fort, hein ?» Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Et un peu plus précisément dans Lévitique 19 au verset 34. Je le fais bosser là, mais ça t'affiche vachement vite. Hein, j'ai même pas le temps de terminer que c'est déjà affiché. Excellent. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous, c'est-à-dire comme né dans le pays. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors ça, si ce n'est pas un mode d'emploi pour la paix, il me semble, c'est à prendre et à mettre de côté dans son cœur, en tout cas. C'est d'ailleurs, je continue, je n'ai pas noté, mais c'est ce qui nous amène à nous appeler frères et sœurs. On n'a pas tout à fait la même couleur de peau, on ne vient pas du même pays, mais on est frères et sœurs. On est frères et sœurs, et c'est ça qui est génial. Peu importe d'où on vient, nos origines, peu importe d'où viennent nos parents, nos grands-parents, on est frères et sœurs parce qu'on est de la patrie céleste. Ça, c'est génial. Le deuxième point concerne ceux qui restent dans leur pays et ne connaissent pas la paix humaine. Que peut-on en dire ? Les gens du monde diront que Dieu n'existe pas, comme on l'a entendu tout à l'heure dans la prière. Il y en a qui disent Dieu n'existe pas, il ne tolérerait pas cela, il ne tolérerait pas qu'il y ait des guerres, qu'il y ait de l'injustice, qu'il y ait des personnes qui meurent. Parce qu'ils ne connaissent pas vraiment Dieu, qui est Dieu. Ils ont une fausse idée, on les a trompés sur l'identité de Dieu. Mais nous qui connaissons Dieu, on connaît Dieu, on connaît la parole, hein, on sait très bien qui est-ce qui rôde, qui vole et qui détruit ici-bas. On sait qui c'est. Alors là aussi, quelle attitude on doit avoir ? 2 Corinthiens 6 au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Entre parenthèses, j'ai rajouté ne pas adorer de faux dieux étrangers. Mais on va y revenir. 1 Pierre 1 au verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Jacques 1, verset 2. J'ai mis jusqu'à combien ? Ce sera 2 jusqu'à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors ça peut paraître un peu confus, il faut rassembler nos idées, se concentrer sur le sujet. Et pour ça, on peut se rappeler des témoignages, que ce soit de notre frère Joby, qui, lorsqu'il a témoigné de la persévérance de sa famille, de son papa particulièrement, malgré les persécutions, qui a tenu bon en louant, en adorant, en continuant à aimer Dieu et à le servir là où il était. Et les témoignages que Françoise nous a rapportés il n'y a pas si longtemps que ça en parlant de portes ouvertes concernant l'Église persécutée. Tous ces témoignages qui nous rappellent tous ces chrétiens qui tiennent bon malgré la persécution. Et pourquoi ils tiennent bon ? Parce qu'ils reçoivent la paix du Seigneur dans leur cœur. C'est ça qui les tient, c'est ça qui les fait avancer. Ils louent, ils adorent malgré les difficultés. Et quand on voit, moi ça m'a vraiment surpris, quand on voit qu'ils disent même « mais ne priez pas pour que la persécution s'arrête », moi j'ai dit « mais c'est pas possible qu'ils puissent dire ça ». Première réaction, c'est « nous on prie pour que la persécution s'arrête ». Ils nous disent ne priez pas dans ce sens-là, parce que depuis qu'il y a la persécution, il n'y a jamais eu autant de personnes qui se tournent vers le Seigneur Jésus. Ça me donne des frissons partout. Je me dis, mais c'est complètement incroyable. Et puis même, il prie pour nous, parce qu'il dit, vous avez un conflit encore plus fort, c'est l'endormissement. L'adversaire est là, et il vous endort. Il nous endort dans notre beau pays, dans l'Occident. Et il prie pour nous, afin que l'on se réveille. Que dire de plus? Quel exemple? Ils gardent la paix du Seigneur en eux. Ils la reçoivent, ils la gardent et ils la mettent en fonction. Parce qu'ils se sentent aussi proches de nous, à nous d'être aussi proches d'eux, comme je disais tout à l'heure. Alors j'ai rajouté Éphésiens 2 au verset 19, afin qu'on se rappelle bien ce que je disais tout à l'heure. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. » En clair, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je me rends compte que je l'ai répété plein de fois. Ouais, j'ai envie d'essayer de comprendre que c'est bien un mode d'emploi pour la paix. Regardons toujours à Dieu. On le chante. Bien des fois, c'est écrit là, alors on chante. Waouh ! Mais est-ce qu'on le met en pratique ? Donc ça, c'était le petit A. Petit B, la paix dans son environnement proche, ben par opposition aux disputes, aux luttes, aux querelles, aux brouilles, les conflits, les désordres. Et j'ai rajouté même aussi le non-pardon. Ah, bien que nous ayons reçu le commandement nouveau de la part de Jésus, aimez-vous les uns les autres. Il faut bien reconnaître que ce n'est pas toujours facile quand même. Hein. Pourtant, il n'y a pas d'autre chemin. Si nous restons auto-centrés, en étant sûrs de notre façon de penser, de nos idées, en oubliant l'amour et la compassion, ben on va droit devant des difficultés. C'est un petit peu dans le sens que nous rappelait notre frère Roger. Que l'amour soit en fonction, qu'elle nous anime, qu'elle nous amène à regarder l'autre. Je parle pour moi aussi, hein. J'ai du chemin à faire encore. Hein. Bon, alors, 2 Timothée 2, verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Continue avec Matthieu 5 au verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. On arrive dans des choses un peu extrêmes, mais la base est vachement intéressante. Accorde-toi promptement. Ne pas rester sur ses positions. Matthieu 18, au verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Serait-ce jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Marquer 70, je voulais essayer de le dire, c'est pas facile. Hein. Ouais, il faut vraiment, vraiment, vraiment développer notre amour au point de pardonner dans toutes circonstances. Et c'est pas facile. Mais je vous rappelle ce qui a été dit tout à l'heure, c'est pas facile, mais pour que la paix demeure dans notre cœur, c'est indispensable. Et comme c'est pas facile, Dieu y pense à tout, c'est ça qui est génial, c'est qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit pour nous aider. Allez, on continue, c'est bon ? Vous prenez, vous recevez ? Ça vous cause ? Waouh ! En C, la paix La tranquillité d'esprit par opposition à l'agitation, à l'angoisse, les émotions négatives, la détresse, l'inquiétude. Que se passe-t-il lorsque nous sommes confrontés à une difficulté ? Alors souvent, il me semble que ça se passe en deux temps. Premièrement, il y a l'inquiétude. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais faire ? Ça, bon, c'est, je dirais, c'est un peu normal. On réagit souvent un petit peu comme ça, dans un premier temps. La lamentation. Tiens, Nicolas, il en parlait tout à l'heure. La lamentation. Oh là, c'est David, d'ailleurs, il se lamentait, mais tout de suite après, il nous l'a rappelé, Nicolas, eh ben, il priait, il louait, il adorait. Mais premier pas, c'est voilà, on commence comme ça, la lamentation. Oh, c'est toujours à moi que ça arrive, mais c'est pas possible, mais franchement, mais quand même, mais ça s'acharne sur moi, et on se lamente. Puis il y a aussi la colère. Mais je pourrais pas être un peu tranquille, enfin. Il y en a marre. Mais heureusement, il y a un deuxième temps. Et ce deuxième temps, vous le pratiquez tous, je bafouille un petit peu aujourd'hui. Seigneur, aide-moi. On fait cette prière et on dit Seigneur, aide-moi. On réagit, on se lève et on dit ok, il y a des difficultés, ok, ça va mal. Ok, je suis confronté à la maladie. Ok, j'ai des problèmes dans mon travail, j'ai des problèmes de tous ordres, dans ma famille, il se passe des choses, je suis bousculé, j'en ai marre, c'est vrai, mais je réagis, je dis « Seigneur, aide-moi ». Et tout ça, je le redis, mais quelle que soit la situation, les drames, les souffrances, il faut dire « Seigneur, aide-moi ». Plus le temps passe, il me semble que moins nous restons dans cette première phase de la lamentation, de la colère, enfin j'espère en tout cas, et plus rapidement nous entrons dans la deuxième phase du « aide-moi » qui s'accompagne en même temps « je t'aime Jésus et je te loue ». Combien de fois ça m'est arrivé de ruminer mon agacement, ma colère. Ça vous est arrivé aussi, j'imagine, un petit peu. Jamais, non. Ouais, toujours plus fort. Par exemple, devant la maladie, de vouloir me lever le matin, mais d'avoir un corps en plomb et d'avoir du mal à me lever du lit. Avec des douleurs partout. J'avais déjà raconté, vous vous souvenez, de la maladie que je trimbalais. Et là, ouais, je commençais par râler parce que j'en ai marre. Parce que les douleurs, j'en avais marre. Se réveiller fatigué, comme si on n'avait pas dormi, c'est usant. C'est fatigant. Quand les gens ne me répondent pas, que vous marchez en traînant la jambe comme ça pour aller chercher le pain, vous mettez un temps fou, puis vous vous asseyez sur le rebord des murets pour revenir parce que vos jambes ne vous portent plus. Ouais, j'ai râlé. J'ai dit, j'en ai marre. Il y en a ras-le-bol. Et puis après, en rentrant à la maison, mettre un chant de louange et puis louer le Seigneur. Seigneur, je t'aime. Peu importe dans l'état où je suis, mais je te loue et je t'aime, Seigneur. Ah, j'ai eu du mal à le faire certaines fois. Hein. Parce que des fois, ça vous prend à la gorge. Parce que des fois, bah, vous chialez, tout simplement. Parce que la douleur, vous en avez marre de la supporter. Les mois, les années passent, et puis cette douleur, vous la trimballez, et puis ouais, vous en avez marre, c'est dur. Mais il y a toujours ce sursaut qui vous amène à louer, à adorer, à dire, mais il n'y a pas d'autre chemin. À qui irions-nous qu'à toi ? On le connaît bien, ça, hein ? C'est à toi, Seigneur Jésus, uniquement à toi. Oh ben même, d'ailleurs, une fois, un matin, je priais comme ça, en faisant autre chose, en me trimballant ma carcasse qui me faisait mal, et puis Seigneur qui me dit, je l'ai déjà dit, mais je le répète, tant pis. Il me dit, Seigneur, il me dit, je te guéris. Ben, je dis, ouais, super, avec cet enthousiasme-là, super. Seulement, je ne le vois pas. Là, je ne sais pas où c'est que tu as vu que j'étais guéri. J'ai du mal à marcher. Je suis guéri d'où ? On râle. Je râle. Puis la semaine suivante, il me le redit. Je fais la même réponse. Bah ouais, super. Seulement, je ne suis pas guéri. Ah ben, j'ai la tête dure. Hein. Je suis un petit peu, des fois, je comprends pas vite. Hein. J'espère que vous comprenez plus vite que moi. Hein. Parce que dis donc, pas. Et puis il me redit une troisième fois. Alors je me dis quand même, au bout de trois fois, peut-être falloir que j'écoute parce que là, il se passe quelque chose. Eh bien, ouais, il s'est passé quelque chose. J'ai dit, ouais, Seigneur. Eh bien, je ne le vois pas dans mon corps, mais peu importe, je le prends, je garde, c'est pour moi, je suis guéri par le nom de Jésus. Je dis, amen. Parce que ça, c'est important. Et je l'ai proclamé pendant des mois, des années. Je l'ai proclamé, je suis guéri par le nom de Jésus. Je ne le vois pas encore, mais je suis guéri par le nom de Jésus. Et puis, jusqu'à, c'était en 2017, et jusqu'en au 16 octobre 2019, où la guérison est arrivée, là. Ça a mis du temps, comme moi je suis long à comprendre, ça a dû mettre plus de temps, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Tout arrive à un moment donné, comme ça, et la guérison est arrivée. Mais j'ai saisi dans mon cœur cette promesse, et j'ai continué à louer, à adorer. Encore plus parce qu'il m'a promis un truc, c'est génial, il vous promet des choses, alors vous le serrez cette promesse dans votre cœur et vous la proclamez, il ne faut surtout pas l'oublier. Les promesses qu'il vous fait, ce que vous recevez dans votre cœur. Et dites pas, moi Dieu il ne me parle pas, Jésus il vit en vous. Amen. Jésus il vit en vous par le Saint-Esprit, vous êtes bien d'accord avec ça? Alors forcément, s'il vit en vous, eh bien, il vous cause. Il vous cause, c'est obligé qu'il vous parle. Le Saint-Esprit qui vit en vous. Alors des fois, on a un petit peu dur d'oreille, surtout moi. Mais il vous cause et à force de vous susurrer, de vous dire les choses, ah tiens, tiens, j'entends. Et ce que j'entends, je le garde dans mon cœur. Et je le proclame, c'est des vérités. Et à ce moment-là, ça agit. Heureusement, que Jésus a soufflé sur nous pour nous envoyer l'Esprit Saint. J'en étais où ? C'est fait. Je me suis emballé un peu, puis du coup j'ai perdu le fil. Mais ça va revenir. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de transposer le texte que je vais lire en Jacques 1. Versets 2 à 11, de transposer ce texte à toutes vos situations. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je répète, comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sur le moment, ce n'est pas facile. Hein. C'est un mode d'emploi aussi. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, pour qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Et on continue. Parce que la suite, elle est importante quand même. Mais qu'il la demande avec foi. Pas comme moi, quand j'ai reçu que le Seigneur me dit « t'es guéri », puis je lui disais « bon, vrai ». Avec foi, qui demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Ça trotte dans votre tête, ça fait du chemin. On pourrait ajouter à cela la parabole du semeur aussi. Hein ? Dans quel terrain faisons-nous pousser notre foi ? J'avais ajouté un petit exemple d'inquiétude, je l'avais mis dans le paragraphe d'après. Je l'ai replacé là parce que, pour donner quelques exemples, j'en ai noté un, j'en ai un autre qui me vient là. Certaines personnes célibataires, par exemple, eh bien, la préoccupation de trouver une âme sœur, eh bien, ça peut prendre tellement de place que ça peut prendre la première place. Et la première place, il faut la donner à qui ? Ouais. Je me souviens de ce que nous partageait Philippe de Courroux la dernière fois qu'il est venu à Angers. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote, plus que ça, c'est un partage de vie. Son fils était persuadé qu'il se marierait à 21 ans. Il l'a toujours dit, il l'a proclamé, il l'avait reçu, je ne sais pas. Il me semble que c'était 21 ans, mais peu importe. Mais l'âge arrivant, et il est passé l'âge, et pas de mariage. Et pour faire court, ben, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? La dépression. Et vous pouvez savoir, parce que dans votre entourage, vous connaissez certainement des personnes qui sont confrontées à la dépression, combien ça peut être douloureux, quelle souffrance ça provoque, la dépression. Pour faire court aussi, hein, mais les années ont passé dans la difficulté, dans la souffrance pour ce jeune, mais aussi pour sa famille. Et finalement, il a lâché prise. Il a lâché prise par rapport à cette idée qui restait bloquée dans sa tête et qui ne comprenait pas pourquoi ça ne se réalisait pas. Alors il a replacé Jésus en premier dans sa vie. Il s'est focalisé sur Jésus. Comment il a fait, je ne sais pas, c'est Jésus qui s'est occupé de lui. Et puis un jour, au moment où il ne s'y attendait pas, eh bien, il a rencontré une jeune femme et il s'est marié. Ça s'est passé après que lui soit guéri, qu'il ait replacé Jésus en premier dans sa vie. Je ne raconte pas aussi bien que lui, mais vous comprenez un peu ce qui se passe. Tout ça pour dire que nos préoccupations, aussi légitimes qu'elles puissent être, peuvent nous faire louper le coche. Et je dirais même qu'en agissant comme ça, en ne plaçant pas bien nos priorités, en étant un petit peu, en restant bloqué sur des émotions négatives, sur de l'angoisse, sur de la détresse, sur de l'inquiétude, sur des choses comme ça, eh bien, on peut aussi tendre une perche à l'adversaire. On sait bien, il n'a pas besoin de ça. Hein. Alors ça ne sert à rien de lui en donner. Je continue en D, la paix, le silence, par opposition au bruit, l'animation, la clameur. J'ai rajouté la pollution auditive et visuelle. Alors on va relire à nouveau 2 Corinthiens 6 au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Je redis, ne pas adorer de faux dieux étrangers. Alors, on le disait tout à l'heure, nous ne sommes pas de ce monde. Ok ? Vous êtes d'accord avec ça ? Nous sommes de la patrie céleste. Amen ? Mais pour l'instant, nous vivons dans ce monde. Et dans ce monde, nous sommes sollicités de toutes parts. Alors, j'imagine que c'est pareil dans tous les pays, mais il faut dire qu'en Occident, c'est quand même pas mal. C'est ce qui, d'ailleurs, provoque aussi l'endormissement. Le joug étranger est pour nous tout ce qui accapare nos pensées, et notre temps, d'ailleurs, et qui n'est pas de Dieu. Ou compatible avec notre amour pour Jésus. Il y a déjà quelque temps, je me rappelais de ça, Yacarelle nous parlait des graduations de nos préoccupations. Tu avais prêché là-dessus, je me souviens, pas si tu te souviens. Tu faisais le geste comme ça, et dit on a nos préoccupations là, il faut les hiérarchiser, et puis voilà, sachant que la préoccupation principale, c'est qui ? C'est Jésus, ok ? Bon, des fois, on se gourre un peu et on ne classe pas bien nos affaires. Hein ? C'est un peu ça qui pose souci. Et dans toutes nos préoccupations, où situons-nous Jésus ? Alors, on chante parfois. Je dis souvent qu'on chante parfois des choses parce qu'on chante. Il y a des chants qui sont vraiment super. Et franchement, ouais, on rentre dedans parce qu'il y a de la louange, parce que puis il y a plein d'intentions. On y met notre cœur. On chante parfois « Jésus, je te donne tout ». Je ne vais pas vous le chanter, mais il y en a qui pourraient le faire. « Jésus, je te donne tout ». Ouais, je te donne tout, sauf ce que je garde pour moi. C'est un peu ça quand même, parfois, quand même, on donne tout, mais on en garde un peu. Et puis en plus, ce qu'on garde, on le garde précieusement. Il faut faire attention à ce qu'on chante, hein, quand même. Bon, c'est certainement que notre cœur dit « je te donne tout » parce qu'on a envie de le faire. Il faut rajouter derrière « donne-moi un coup de main parce que je ne vais peut-être pas y arriver tout seul ». Mais ça n'irait pas dans le texte du chant, ça sonnerait peut-être pas bien, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, tu essaieras de nous faire un chant dans ce sens-là, ça pourrait être sympa. Moi, je le disais tout à l'heure, moi j'ai du chemin à faire. Et je prie dans le sens, Seigneur, aide-moi à diminuer, moi, dans ma vie, que moi je puisse diminuer pour que toi, Seigneur Jésus, tu grandisses. Et aide-moi à mettre mes préoccupations à la bonne place. Ce que je ne fais pas toujours. Vous débrouillez, vous regardez en vous-même, hein. Et je prie aussi, je lui dis, mais aide-moi à lâcher ce qui n'est pas utile, et que pourtant je garde. Il ne faut pas être idiot. C'est bien qu'on garde des choses qu'il ne faut pas garder parfois. Tout est une question de graduation. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous rappelait Pasteur Timothée. C'était bien qu'il nous rappelle tout ça. Simple, efficace. Alors il y a aussi toutes ces sollicitations quotidiennes de la musique, de la radio, de la télé, tous les hobbies, les loisirs qu'on peut avoir, hein, qui sont certainement très chouettes. Hein, c'est pas un souci en soi. C'est de savoir à quelle place je les mets. Quel temps ça me prend ? Ça mange du temps sur quoi ? Tout est bon, mais tout n'est pas utile. Tout ça pour dire qu'il faut se mettre en situation de paix. Parce que quand on ne place pas bien les choses, qu'on ne les classe pas au bon endroit, qu'on y passe plus de temps, ça occupe notre tête d'une manière trop importante, que ce soit des loisirs, que ce soit tout ce que je viens de citer, eh bien, le risque, c'est que ça ne nous mette pas en situation de paix. Si on a toutes ces alertes dans la Bible et tous ces textes que l'on a lus, c'est des signaux et qui traversent les temps. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention au temps qui passe. Repensez aux vierges folles, par exemple. Parce qu'il faut éviter les contaminations du monde extérieur. On vit dans ce monde pour l'instant, mais on n'est pas du monde, mais on est contaminé parce qu'on est dans ce monde. Alors il faut y faire attention. Ouais, et seul on ne peut rien faire. Je me rappelle de Jésus qui dit ça dans Jean 15, 5. On ne peut rien faire sans Jésus. Alors, comme il le sait très bien, il souffle sur nous et il nous donne le Saint-Esprit. Parce qu'il sait bien qu'on ne va pas y arriver tout seul. Et qu'on a besoin de compter sur lui. On a besoin de s'appuyer sur lui. On a besoin de regarder à lui. Reconnaître dans quel état on est. Reconnaître nos faiblesses. Pas s'apitoyer sur nos faiblesses. Oh, mais moi, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Mais si. Pourquoi tu dis ça? Jésus, il est là, il vit en toi. Donc, il nous aide, il va t'aider. Forcément, il suffit de demander. Et de demander encore. Laissons le Saint-Esprit agir en nous. Laissons-le nous reconstruire, nous modeler. Ça aussi, on le chante, le potier qui modèle. Sauf qu'on n'a pas envie qu'il nous triture de trop, parfois. Mais laissons-le nous modeler. Si on fait cette prière sincèrement du potier, le grand potier, pour qu'il nous modèle, qu'il nous retransforme en ce qu'il veut, dans un joli vase, dans un pot, selon ce qu'il veut que l'on fasse de notre vie, selon notre appel, laissons-le nous transformer, nous modeler. Et puis surtout, cessons de nous attacher à nos fausses sécurités, notre confort, et remettons en ordre nos priorités. Ça va ? Vous voulez remettre en ordre vos priorités ? Moi, j'en ai besoin aussi. Ça tombe bien. On sait quoi, là, on n'a qu'à prier ensemble, alors. Ça marche ? Ok. Priez aussi de votre côté. Mettez-vous devant le Seigneur. Pendant que moi, je prie aussi pour moi et je prie pour vous. Ah, Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu nous parles. Merci parce que par ton Saint-Esprit qui vit en nous, nous avons cette possibilité, cette capacité à t'entendre, à être au plus près de toi. Aide-nous à être toujours encore plus près de toi, Seigneur, de pouvoir vraiment vivre les choses avec toi, non pas t'associer à ce que nous vivons, mais de vivre ce que toi, tu veux que l'on vive, que ce soit vraiment mon vœu le plus cher et notre vœu le plus cher, vivre par toi et ne plus vivre par nous. Seigneur, merci de ces transformations que tu opères en nous. Merci parce que tu nous donnes des modes d'emploi dans tous les domaines grâce à cette parole, à la Bible, qui est là pour nous instruire, nous guider, nous aider dans notre transformation de vie. Tu as pensé à tout, à tous les aspects. Alors merci Seigneur de vraiment nous guider, nous apporter la lumière pour que vraiment nous puissions vraiment saisir cette parole, qu'elle puisse vraiment faire écho dans notre cœur, dans notre vie, que l'on puisse se laisser transformer, modifier et vivre selon tes projets. Merci Seigneur, répands ton esprit sur chacun d'entre nous, sur moi et sur chacun d'entre nous, on en a tellement besoin. Remplis-nous de ton esprit, ravive ce feu en nous, ravive cette eau vive en nous, afin que vraiment nous puissions laisser ce Saint-Esprit agir, que l'on puisse le laisser bouillir en nous, que l'on puisse voir nos vies transformées, que dans toutes les situations nous puissions regarder à toi, que nous puissions traverser des drames, des difficultés, et bien qu'on soit toujours centré sur toi et pas centré sur nous, pas nous lamenter sur nos difficultés, mais simplement à t'adorer et dire « peu importe ce que je vis Seigneur, je t'aime », que l'on puisse vraiment être dans cette nouvelle dimension Seigneur, comme si nous étions déjà dans cette patrie céleste, pour pouvoir te louer, t'adorer en permanence, que l'on puisse avoir vraiment cette transformation de vie du plus profond de nous, que nous puissions être renouvelés et transformés. Vraiment, Seigneur Jésus, merci pour cette transformation. Merci pour tout ce que tu fais dans notre cœur en ce moment, de cette façon que tu as de nous titiller, de nous parler, de susurrer à notre oreille des mots doux pour dire « Je t'aime, tel que tu es là, sois Rends-toi bien compte que je t'aime, que je sais, il nous dit le Seigneur Jésus souvent ça à notre oreille, je t'aime. Est-ce que nous l'écoutons parfois quand il nous dit je t'aime, il vous aime, il connaît la situation de chacun d'entre nous. Et à chaque fois, il nous dit, mais rappelle-toi, je t'aime et je ne te laisse pas tomber. Mon bras n'est pas trop court pour te secourir, pour te sortir de ta difficulté. Regarde simplement à moi. Regarde pas tes pieds, regarde pas le fond de l'abîme, le fond du trou, mais regarde à moi, regarde à la lumière, regarde à qui je suis. Ne regarde pas à qui tu veux être, mais regarde à moi. Ne t'occupe pas du reste, ne t'occupe pas de ce que tu vas devenir. Regarde à moi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce temps que nous passons avec toi Seigneur. Et s'il est possible, j'aimerais que l'on puisse continuer ce moment avec encore un temps de louange. Pas pour faire de la musique, pas pour entendre de la belle mélodie, pas pour entendre des beaux chants, mais pour